Grand Angle sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, c'est le grand angle de ce jour. Des milliers d'enfants en situation de handicap n'ont pas de solution de scolarisation adaptée pour la rentrée à venir. C'est ce qu'indique une enquête de l'UNAPI. C'est un réseau d'associations qui représente les personnes avec des handicaps intellectuels et cognitifs. D'après cette étude, 13% des élèves en situation de handicap et qui sont en établissement spécialisé n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. Notre invitée, Sonia Aïe, Inou, vice-présidente de l'UNAPI. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors 13% des enfants handicapés qui n'ont donc aucune heure de scolarisation par semaine, 38% moins de 6 heures, 30% entre 6 et 12 heures de scolarisation et seuls 19% ont plus de 12 heures de scolarisation par semaine. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi est due cette situation ?
Déjà, si nous sommes dans une démarche d'école inclusive et de société inclusive, il faudrait arrêter de traiter les élèves en situation de handicap comme un problème. Un élève est un élève, sans distinction, et c'est un projet de société, un projet de vie et un projet qui doit concerner tout le monde. Cette problématique, elle est liée aussi parce qu'aujourd'hui, l'école n'est pas en mesure de réunir tous les moyens nécessaires, structurels, matériels, financiers, organisationnels, pour que chaque élève, quel qu'il soit, puisse rentrer dans les apprentissages, développer son autonomie et être scolarisé comme tous ses autres camarades.
Vous aviez lancé un tel cri d'alarme l'année dernière. Des améliorations ont-elles vu le jour ?
Alors oui, effectivement, on a des améliorations qui ont vu le jour, mais encore faut-il aller encore beaucoup plus loin. Alors j'aime bien donner cet exemple de la personne qui a besoin d'une paire de lunettes pour voir. Si on ne lui fournit uniquement la monture des lunettes, ça sera quand même problématique pour qu'elle puisse résoudre son problème. Aujourd'hui, l'école inclusive, on en est là. On fournit beaucoup d'outils, on fournit beaucoup d'annonces, mais le système tel qu'il est aujourd'hui n'est pas suffisamment dynamique et agile pour travailler autour de la scolarisation de tous les élèves, quels qu'ils soient.
Et vous soulignez qu'au mois de juillet dernier, 65% des enfants n'avaient pas de numéro d'identifiant national des étudiants et restent donc invisibles pour l'éducation nationale des enfants en situation de handicap.
Oui, exactement. Ce projet de société commence par ça, par la reconnaissance du statut des élèves. Et cette reconnaissance passe par le numéro d'identification des élèves, comme tous les élèves lambda, quand ils vont aller à l'école et que ça va les suivre jusqu'à la fin de leur scolarité.
Alors, cette scolarisation qualifiée d'inadaptée, est-ce que vous pouvez nous dire comment cela se traduit et qu'est-ce qu'une scolarisation inadaptée pour un élève en situation de handicap, sachant que les handicaps peuvent bien sûr être très variés, même lorsqu'ils portent le même nom, comme l'autisme par exemple.
Oui, alors c'est vrai que vous avez un élève qui a un certain nombre de besoins. En fonction du retentissement de son handicap sur les apprentissages, sur la vie sociale, sur la communication, sur sa vie quotidienne, vous avez des professionnels qui vont intervenir de façon plus ou moins intensive. Vous allez avoir l'intervention d'un enseignant spécialisé, par exemple, ou d'une AESH, un accompagnant des élèves en situation de handicap, qui va permettre à l'élève, par exemple, de lui retransmettre les consignes ou d'écrire à sa place quand c'est une personne qui a des difficultés d'écriture. Et vous avez aussi des élèves qui ont besoin de professionnels pluridisciplinaires qui sont du secteur spécialisé, qui ne peuvent pas intervenir auprès de l'élève parce qu'il n'y a pas de place. Donc, l'accès à ces établissements dits spécialisés génère des listes d'attente. Vous avez un exemple, vous avez Mathias qui attend depuis 5 ans une place en institut médico-éducatif avec des interventions spécialisées. Il a suivi toute sa scolarité en primaire avec l'appui d'un dispositif d'unité localisée pour l'inclusion scolaire dans une école de son quartier. Mais aucune solution ne lui a été proposée pour son entrée en 6e. Donc, vous voyez bien que quand vous avez des déficits ou des lacunes dans l'accompagnement, et même si vous avez un accompagnement nécessaire à un temps donné, par exemple à la rentrée, ça ne vous garantit pas d'avoir une scolarité fluide jusqu'à la fin de votre scolarité.
Lorsque l'on vous entend parler, on comprend qu'il s'agit là d'une discrimination vis-à-vis de ces personnes handicapées.
Oui, c'est une discrimination. C'est que le traitement n'est pas équitable à partir du moment où vous êtes en situation de handicap. Les parents ont un autre chemin que d'autres parents d'élèves. Il faut qu'ils aient des lourdeurs administratives, il faut qu'ils s'occupent de leur enfant quand il est scolarisé de façon très partielle. Tout à l'heure, je parlais de solutions de scolarisation. Ça veut dire bien qu'on traite le handicap comme un problème et non comme un projet. Donc, on apporte des solutions trop partielles, incomplètes ou totalement inexistante.
Votre étude émane de questions posées à plusieurs milliers de personnes. Dans les faits, combien d'élèves aujourd'hui en France n'ont pas de solution ou alors ont une solution inadaptée à quelques jours de cette rentrée scolaire ?
Au ce jour, nous n'avons aucune quantification exacte de la non-scolarisation, de la mauvaise scolarisation des élèves en situation de handicap. Je parlais précédemment de l'Observatoire des besoins. Cet observatoire national permettra justement de quantifier tout ça et permettra aussi d'organiser une scolarisation effective et pérenne pour tous les élèves.
Et il y a des parents désemparés hein, qui vous écoutent en ce moment, oui, qui ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ?
Moi, déjà, je leur souhaite une très bonne rentrée. Je leur souhaite de ne pas lâcher, de ne rien lâcher et de bien s'appuyer sur les associations. Quelle que soit leur situation, la situation doit être entendue et nous sommes porte-parole justement pour remonter leur situation à travers la plateforme marentrée.org. Mais également, je leur conseille aussi de ne pas hésiter vraiment à contacter tous les interlocuteurs au niveau de l'éducation nationale, au niveau des numéros qui ont été mis en place pour les parents justement dès la rentrée quand ils rencontrent leurs difficultés et nous sommes toujours là pour eux.
Et il est important aussi de souligner qu'il y a des élèves en situation de handicap, handicap invisible notamment, qui ne sont pas forcément adaptés au système actuel, mais qui pourraient réussir et progresser tout au long de leur scolarité et puis ensuite trouver un travail particulièrement intéressant. C'est aussi une question de confiance et de regard vis-à-vis de cela.
Bien sûr, c'est une question de confiance et une question de regard. Les parents sont pleinement acteurs au même titre que les autres professionnels autour du projet de scolarisation de leur enfant. C'est leur projet de devenir et leur projet d'accompagnement pour aller vers l'autonomie. Donc, les enseignants, les professionnels médico-sociaux, les professionnels libéraux, les agents des collectivités doivent aussi changer de regard et se mettre en ordre de marche pour mettre en œuvre l'école inclusive qui est à construire tous ensemble.
Vous évoquiez la question des AESH, des accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils sont assez nombreux aujourd'hui en France. Comment est-ce que cela se passe ? Ou alors est-ce que ce sont les écoles qui ne peuvent pas en accueillir suffisamment ? Où est le problème ?
Alors, les accompagnants des élèves en situation de handicap sont des personnels qui interviennent directement en soutien de l'élève. Ils sont aujourd'hui très nombreux. Ils sont aujourd'hui en difficulté parce que il y a une mauvaise reconnaissance de leur rôle, il y a une mauvaise reconnaissance de leur rémunération. Et aujourd'hui, même s'il y a une augmentation du recrutement des AESH, il n'y a pas assez de personnel AESH en place pour intervenir auprès des élèves dont c'est le besoin.
Afin que ce problème, même cette catastrophe, vous pouvez, j'imagine, parler de catastrophe, ne se reproduise pas encore l'année prochaine, quel message lancez-vous au gouvernement ?
Pour en lancer un message au gouvernement, c'est vraiment qu'ils mettent vraiment tout en œuvre pour que leurs annonces soient suivies des faits. C'est un investissement pour l'avenir, c'est un investissement pour la société. Il faut absolument qu'ils garantissent l'accessibilité de l'école dans toutes ses dimensions. Qu'il s'agit des supports pédagogiques adoptés, qu'il s'agit notamment de la formation des professionnels, de soutenir et de favoriser la coopération de tous les acteurs qui interviennent dans la scolarité. Vous avez besoin des besoins matériels, des besoins organisationnel et aussi intervenir sur les freins réglementaires qui empêchent aussi cette bonne coopération.
Quels sont-ils, ces freins réglementaires aujourd'hui ?
Alors, les freins réglementaires, c'est qu'on voit aujourd'hui que vous avez plusieurs professionnels qui interviennent dans l'école, par exemple. Quand vous avez des professionnels médico-sociaux qui interviennent dans l'école, il faut aussi que la réglementation leur permette aussi que leur mission soit aussi calculée sur le temps pédagogique et le temps de l'éducation nationale. Vous faites cohabiter plusieurs secteurs. Et dans la mesure où ces secteurs cohabitent, vous avez des réglementations qui ne sont pas forcément en phase dans l'organisation. Il faut aussi faire évoluer le fonctionnement des maisons départementales du handicap pour que les délais administratifs soient optimisés et que les réponses soient beaucoup plus rapides pour l'intervention auprès des élèves. Aujourd'hui, vous avez des pôles d'appui à la scolarité qui sont mis en place où vous avez des enseignants spécialisés et des professionnels du médico-social qui vont travailler ensemble au sein de l'école et qui vont mettre en place tout de suite des interventions de première ligne auprès des élèves en situation de handicap. Mais ces professionnels-là ne vont pas agir sur les listes d'attente ou sur les retentissements beaucoup plus importants pour certains élèves qui ont besoin d'interventions beaucoup plus complexes.
Et c'est une question, une situation qui concerne des millions de personnes, notamment en France, si l'on prend en compte les proches de ces élèves. Un grand merci, Sonia Aïnou. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'UNAPI. L'UNAPI, c'est un réseau d'associations qui représente les personnes avec des handicaps intellectuels et cognitifs. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.